Ici, Moscou. À propos, avec Alexandre Artamonov.
La crise économique s'emporte de secours. Marc Rousset, diplômé HEC, docteur et sciences économiques, MBA Columbia University, AMP Harvard Business School, a occupé pendant 20 ans des fonctions de directeur général dans les groupes Aventis, Carrefour et Veolia. Il est l'auteur de « Pour le renouveau de l'entreprise », édition Albatros, 1987, de « La nouvelle Europe de Charlemagne », préface d'Alain Perfit aux éditions Economica, 1995, prix de l'Académie des sciences morales et politiques, et « Des auroricains », édition Godefroy de Bouillon, 2001. En 2010, il a sorti encore un ouvrage intitulé « La Nouvelle Europe, Paris, Berlin, Moscou », toujours aux éditions Godefroy de Bouillon. Il a tenu à se prononcer sur la crise mondiale qui déchire le monde et notamment la France. Il y a 5 ans débutait la crise économique mondiale. Quelles sont les perspectives d'après vous? Va-t-on recouvrer la santé économique en France et en Union européenne?
Alors, il y a une raison qui font que nous vivons une économie folle, que le monde est complètement débouchelé. Bon, alors j'en vois deux d'abord qui sont normales, hein, depuis que le monde est monde. C'est-à-dire, il est normal qu'il y ait des cycles économiques. Nous avons tous appris ça, petits étudiants en sciences économiques, le cycle long de Kondratiev, de 10 ou 20 ans, les cycles Jubilard à court terme de 2-3 ans. Qu'il y ait des cycles dans l'économie, ça c'est normal. Qu'il y ait une montée en puissance des pays émergents, c'est inévitable également. Aucun pays au monde, aucune économie a pu garder dans les temps aussi longs qu'immémoriaux pour elle-même toujours les technologies ou les savoir-faire. Il y a toujours des diffusions, si ce n'est quand même que l'Occident, par le biais de son capitalisme débridé, a accéléré la diffusion d'informations et donc accéléré son déclin. Et n'oublions pas qu'actuellement, déjà, plus de la moitié de la production industrielle mondiale est réalisée par les pays émergents. Et effectivement, nous voyons monter cette Chine, qui est assez préoccupante, pour la Russie en particulier à terme, et l'Inde, au-delà de ses difficultés économiques actuelles. Voilà pour les deux raisons normales. La raison qui me paraît fausse, stupide, et qui est évoqué souvent d'ailleurs par des gens de gauche, c'est cette idée des banques qui sont à l'origine de la crise. Ça, c'est une stupidité déconcertante, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, mais depuis que le monde est monde, depuis le Moyen-Âge, il y a des banques, et vous avez les banquiers lombards, en France aussi, nous avons eu Jacques Coeur, etc., et même du temps de l'URSS, c'est pas moi qui vais vous apprendre cela, cher monsieur Artamonov. Même en urs, il y avait des banques.
Tout à fait, ouais.
Bien, alors ça c'est pour la raison qui est fausse et stupide. En ce qui concerne les 5 raisons anormales de la difficulté du monde, des difficultés que nous connaissons, j'en vois 5 et sur lesquelles il conviendrait de rectifier les tirs. Alors la plus importante, ce que tout le monde oublie, ce qui me paraît primordial, c'est le problème de l'inconvertibilité du dollar en or, c'est-à-dire l'inconvertibilité qui a été réalisée par Nixon le 15 août 1971, qui a été c'est à partir de ce moment-là d'ailleurs que l'économie a commencé à se débrider avec un petit décalage dans le temps. Hein. C'est en 1980, comme par hasard, qu'a commencé le véritable dérèglement de l'économie mondiale, mais entre 70 et 80, ça fait jamais qu'une dizaine d'années. Donc cette inconvertibilité du dollar en or amène le chèque en blanc pour le déficit fédéral, déficit commercial, et je vous rappelle que tous les mois, actuellement, la Federal Reserve Bank crée une augmentation de la masse monétaire artificielle, finance par la création monétaire à hauteur de 85 milliards de dollars par mois le déficit américain, ce qui est inacceptable et ne correspond pas à l'orthodoxie de financement d'une économie équilibrée. Deuxième chose anormale, c'est cette idée qui convient à l'idée du capitalisme mondial, mais qui ne correspond pas à l'intérêt des peuples, et certainement pas à l'intérêt des peuples industrialisés, tels que l'Europe, voire même les États-Unis, c'est ce libre-échange mondialiste et débridé qui a fait le bonheur de la Chine, mais qui fait le malheur de l'Europe. La France, en 30 ans, a perdu 3 millions d'emplois industriels. Troisième idée, c'est que l'économie, il n'y a pas d'économie solides sont des valeurs solides. Les valeurs solides me paraissent être celles de, qui ont été finalement aussi bien défendues par De Gaulle que par Pétain, chacun à sa façon. Même De Gaulle a défendu le travail et la famille après 1945. C'est-à-dire les vraies valeurs solides de tout peuple qui se respecte, c'est travail, famille, patrie. Et il n'y a pas d'économie solide sans des valeurs solides. Or, l'Europe de l'Ouest est en décadence politique, militaire, et la décadence est un tout. Et en général, lorsque vous avez décadence des valeurs d'une société, décadence morale évidemment, eh bien vous ne faites jamais une économie solide avec un pays, une société qui part à volo. Quatrième idée qui me paraît anormale, ça a été la folie des idées keynésiennes sur lesquelles se sont appuyés tous les politiciens français qui avaient trouvé l'aubaine absolument extraordinaire. Plus on dépense, mieux ça vaut pour l'économie. Alors, avec des gens hédonistes et irresponsables, lorsque vous avez une théorie aussi belle, eh bien, on se charge de l'appliquer et on en arrive à la situation française actuelle avec une dette qui approche en France les 100% du produit intérieur brut. Cinquième idée sur laquelle il me paraît aussi important de revenir, c'est de vouloir, et qui a fait le malheur en particulier de la France, et puis de nombreux pays industrialisés, mais surtout de la France, je dirais. C'est cette folie de vouloir développer l'économie que par la demande, ça c'était l'erreur socialiste, dans les pays industrialisés, alors que l'Allemagne, elle, très tôt, ou plutôt, a compris qu'une économie solide dans un pays industrialisé reposait sur une économie de l'offre, avec des entreprises compétitives et qui exportent. Alors, en conclusion, si vous voulez, je voudrais vous donner quelques chiffres.
Avec plaisir, on vous écoute.
Après, si vous voulez bien, à quelques idées clés, en élargissant encore le débat. Alors, dans quelques chiffres clés, tout d'abord, je vous en rappeler quelques-uns. Des chiffres bon, sur l'Europe du Sud, hein, comme chacun sait, avec des taux de dette par rapport au PIB, là, je n'apprends rien, qui vont de 100% à 180% du produit intérieur brut. Et vous avez actuellement le taux d'intérêt du Portugal qui remonte à 7%. La France qui approche les 100% du PIB, et je disais ça encore pas plus tard qu'hier, c'est quand même assez préoccupant de savoir que 61% des diplômés 2012 en France n'ont toujours pas trouvé d'emploi en 2013. Je voudrais finir ensuite comme chiffre clé qui interpelleront également vos auditeurs et vos téléspectateurs, ce sont les États-Unis. Aux États-Unis, la dette augmente de 1000 milliards de dollars, je dis bien 1000 milliards de dollars par an. Aux États-Unis, le taux réel de chômage n'est pas de 7% comme nous l'écrivent les médias, mais de 23%, parce qu'il y a des gens qui ont renoncé à trouver du travail, au bout de 6 mois, l'indemnité de chômage se sont rayées. Donc, si vous voulez, le taux réel de chômage aux États-Unis n'est pas de 7%, mais de 23%. Et en ce qui concerne la dette des États-Unis, qui était de 1000 milliards de dollars en 1980. En 2006, lorsque Bernanke est arrivé à la tête de la Federal Reserve, la dette des États-Unis était de 8000 milliards de dollars. Et 7 ans après, en 2013, alors qu'il quitte la tête de la Federal Reserve, nous sommes à 17000 milliards de dollars de dette aux États-Unis. Donc voilà des chiffres qui, si vous voulez, interpellent et montrent que la situation est très sérieuse, et en ce qui concerne la France, encore plus que très sérieuse.
Le monde se meurt. Il s'agit du monde qui est celui de la conférence de Potsdam, avec ses partis pris, ses idées figées sur le bien et le mal, sur le Hollywood et la mode, sur l'Europe et le rideau de fer. Ce monde qui nous a tous portés dans son giron n'est plus. Expulsés de son corps déchiré, nous continuons de nous accrocher à quelques illusions en feignant d'ignorer ostensiblement la brute vérité qui s'impose de plus en plus à nos yeux. Ceci dit, posez-vous juste une toute petite question. À quel avenir croyez-vous? Et en fait, y en a-t-il un pour l'Europe et pour les États-Unis, vu l'état actuel des choses? Alexandre Artamonov, La Voix de la Russie.